Ô céleste consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeurons-nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes.
Ce petit entretien, c'est celui que j'ai fait le 15 janvier dernier à l'occasion du 10e anniversaire de ma consécration épiscopale à Corse. Et je m'en excuse auprès de ceux qui l'ont déjà entendu. Tu y étais, toi, je crois bien.
Je n'y étais pas et je ne me souviens pas d'avoir entendu ou des morceaux.
Ah non, non.
Il y a de l'écouter.
Sur le site de Bethany, je crois que ça a été repris.
C'est cool, c'est cool. Bien, en tout cas, voilà. Alors, ma réflexion est venue d'une constatation. On a, depuis une cinquantaine d'années, disons un peu plus même, une nouvelle catégorie de gens dans nos églises, ce qu'on appelle les croyants non pratiquants. Croyants non pratiquants, avec un rejet des gens qui sont vraiment fidèles à Dieu, mais qui sont incapables de comprendre ou de s'adapter ou de réfléchir sur le concept d'église, la pratique ecclésiastique, la pratique de l'église. Ils le rejettent tout à fait. Et c'est pas seulement un rejet, j'allais dire, d'un concept administratif, non. C'est l'idée même d'église qui est vraiment pas compris du tout par un grand nombre, quand même, de chrétiens. Alors je me suis dit, il y a quand même une réalité qu'il faut mettre en avant, il faut rappeler, c'est que ça n'est pas le concept même de l'Église, le mot « Église », ça n'est pas quelque chose de récent, ça n'est pas quelque chose qui date du Moyen-Âge. Ça vient du fond des âges, et en faisant cette recherche, j'ai découvert qu'en fait, le mot « Église », en grec « Ecclésia », existe déjà dans dans l'Ancien Testament, et tout particulièrement dans les premiers livres, la Genèse, l'Exode, et le mot même est employé, puisque en grec, dans la Bible grecque, la traduction des Septante, la fameuse Septante d'Alexandrie, quand il a fallu traduire un mot hébreu sous-jacent, ils ont employé le mot « ecclésia » qui était déjà, c'était pas un néologisme, c'était quelque chose qui existait en grec. Et c'est à partir de cette réflexion-là que nous allons réfléchir et voir un peu. D'abord, le mot lui-même, en hébreu, se dit « ka'al », « ka'al ». Et vous remarquerez bien que il y a une parenté, une proximité phonétique entre le mot sémitique hébreu, kaal, je vais dire ce que ça veut dire après, et le mot grec ecclésia. Ecclésia en grec est un verbe, c'est issu d'un verbe, le verbe kaléo qui veut dire appeler. Ek kaléo signifie convoquer, appeler à se réunir. C'est une convocation. L'Ecclésia, chez Homère, par exemple, c'est la réunion de tous les guerriers pendant la guerre de Troie. Il emploie le mot « Ecclésia ». Oui, une église. Une église de guerriers. Une église de combattants. Une église, c'est une réunion de gens qu'on a convoqués, qu'on a appelés à haute voix. Et le terme hébreu « Kaal » a la même signification. Et vous remarquez, il y a la même consonance. Bon. Alors, il y arrive effectivement quelquefois que les racines indo-européennes et les racines sémitiques se rejoignent. Ça arrive, il y a un certain nombre de mots comme ça, mais ça n'est pas quelque chose c'est pas un hasard. Il y a eu des contacts très très anciens, au temps néolithique, entre les tribus anatoliennes, les tribus indo-européennes, qui sont venus jusque chez nous, n'est-ce pas, qui sont nos ancêtres, et les sémites de la Mésopotamie. Par exemple, les Hittites sont des Indo-Européens. On connaît leur langue, qui ressemble à du latin, bizarre, archaïque ou grec archaïque. Et les Hittites ont été longtemps en contact avec les Hébreux. Il y a dans l'histoire de David un Hittite célèbre, Uri, le premier époux de Bethsabée, que David envoie à la guerre pour profiter de son absence. Donc, en hébreu, le mot est Kaal. Trois consonnes, Kof, Et, et l'amen. Et ça signifie aussi appeler, rassembler, convoquer. Et il y a un certain nombre de citations qu'il faut absolument connaître pour bien comprendre le sens de cette assemblée. Dans le Deutéronome en particulier, on emploie très souvent le mot Kaal pour les assemblées au pied du Sinaï. Ils s'assemblent, les Hébreux, les enfants des Hébreux, la Bible, s'assemblent pour entendre la parole de Dieu, au pied transmise par Moïse évidemment, puisque Dieu ne leur parle pas directement. Vous savez, il y a un passage dans la Genèse, dans l'Exode qui est très significatif, où les Hébreux disent à Moïse, qu'il te parle à toi, mais surtout qu'il ne nous parle pas à nous directement. Ils avaient très peur. Bon. Donc on les rassemble, et cette ecclésia, cette église, est l'assemblée de tous ceux qui sont convoqués pour entendre la parole de Dieu. Par exemple, dans Deutéronome, le Seigneur me donna les deux tables de pierre écrites du doigt de Dieu et portant toutes les paroles que le Seigneur vous avait dites sur la montagne dans le feu le jour de l'assemblée. Le jour de l'assemblée. Le jour de la réunion. L'assemblée. Un peu plus loin, Moïse prononça aux oreilles de toute l'assemblée les paroles de ce cantique. Ça, c'est le fameux le cantique du mardi qu'on chante. Et dans le livre des Nombres, pourquoi avez-vous amené l'assemblée de Dieu dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Toujours l'assemblée, le Kaal de Dieu, la convocation de Dieu. Dieu dit, par exemple, à Jacob, dans la Genèse, au 35. Je suis le Très-Haut, sois fécond, multiplie-toi, il naîtra de toi une nation, une assemblée de nations. Une assemblée de nations, toujours des assemblées, toujours des multitudes qui se rassemblent. Alors je pourrais multiplier les passages, mais vous pouvez faire une petite recherche si ça vous intéresse, et vous verrez que il y en a à peu près à toutes les pages. Ce mot est vraiment très, très, très utilisé. Même dans les psaumes, où on pourrait penser que dans un poème, c'est problème d'assemblée, de convocation, mais ainsi pourtant, dans le psaume 23 par exemple, j'aurais dû prendre un côté. Dans le psaume 23, on doit traduire, généralement, c'est pas bien traduit, mais si on regarde bien le texte grec, on voit tout de suite Ecclésia. On voit Ecclésia, Église. Il faut traduire Église, puisque c'est le mot. Assemblée, c'est un mot générique, parce que Kahal, ça a un sens vraiment précis en hébreu. Hein. C'est l'assemblée de ceux qui ont été appelés pour entendre la parole, pour écouter la parole. Le psaume 23, j'ai dit. Hein. Dans le psaume 23, verset 23. J'ai dû faire une erreur de... une erreur de ton maison parce que c'est pas dans le psaume 23. En tout cas, je peux vous donner quelque chose.
Hein?
Oui, oui. Il y a un certain nombre de psaumes. Au moins 6 ou 7 psaumes. Dans lequel il est question, dans le psaume 111. Là, je suis sûr que de ne pas m'être trompé. Dans le psaume 111. Ah. Voilà. Alors, lui, il traduit, « Je célébrerai le Seigneur de tout mon cœur dans le cercle des hommes droits et dans la communauté. » Mais ce n'est pas « communauté » qu'il faut traduire, c'est « ecclésia », c'est dans l'Église. Il faut faire extrêmement attention parce que par la suite, cette notion va prendre un sens bien précis, beaucoup plus spécifique, beaucoup plus particulier que le sens général de communauté ou d'assemblée ou de réunion. Il ne s'agit pas d'une réunion, il s'agit d'une ecclésia. Quelque chose de particulier. Et c'est Saint Paul qui va nous expliquer tout ça dans le Nouveau Testament. Dans l'Évangile, par exemple, le mot ecclésia n'apparaît qu'une seule fois. C'est le Christ lui-même qui l'a prononcé dans Matthieu 16, 18. Ah, c'est intéressant de savoir ça. Le mot église existe dans Saint Matthieu. Dans Saint Matthieu, chapitre 16. Je vais vous lire ce passage. Oui, l'église, ce n'est pas une invention du curé. Le mot même n'est pas une invention du curé. C'est intéressant parce que, effectivement, quand on écoute, j'allais dire, le commun, le tout venant, des fidèles plus ou moins pratiquants, on a vraiment l'impression, bon, l'Église, c'est quelque chose qui a été inventé, n'est-ce pas l'invention des hommes. Non. Non. Chapitre 16, verset 18. Est-ce que ça te dit quelque chose, ce passage ?
J'ai pensé de l'enfer, mais près de toi.
Exactement. Et moi, je te dis, tu es pierre, et sur une telle pierre, je bâtirai mon Église. Et bien écrit « Ecclésia ». Et évidemment, il ne l'a pas dit en grec, le Christ, puisqu'il parlait l'araméen. Il a donc dit « Kahal, je construirai mon Kahal ». Alors il y a trois grands Kahal dans l'Ancien Testament, trois grandes réunions solennelles, où le peuple tout entier est invité à écouter la parole de Dieu. Le premier, c'est celui de Moïse dont j'ai parlé tout à l'heure. Et le troisième, le second, c'est du temps du roi Josias, au moment où on redécouvre le rouleau, un des rouleaux qui avait été perdu, un des rouleaux de la loi, de Deutéronome, la deuxième loi. Et le troisième, celui du prophète de Néhémie, au moment du retour d'exil, de l'exil à Babylone. Quand on relit solennellement toute l'écriture, toute la loi, en présence du peuple pour qu'il l'entende. Donc dans le Nouveau Testament, on va développer cette notion, à partir surtout des réflexions de Saint Paul. Et alors là, il y a un certain nombre de citations qu'on ne peut pas omettre. Saint Paul. Saint Paul, à peu près dans toutes ses épîtres, on est un spécialiste, il faut que je fasse attention. À peu près partout, Saint Paul parle de l'Église. Bon, évidemment, c'est normal, car c'est à des églises, c'est à des assemblées qu'il s'adresse. Donc, il est normal qu'il essaye de structurer un peu ces assemblées. Ce ne sont pas des assemblées inorganiques. Au contraire, il va nous donner un certain nombre de chemins à suivre, de chemins de formation, de structure, pour se structurer intérieurement, non seulement comme individu, mais comme individu collectif. Alors, d'abord dans Romains au chapitre 12. Car de même qu'en un seul corps, nous avons plusieurs membres, et que ces membres n'ont pas tous la même fonction, ainsi, à nous tous, nous sommes un seul corps en Christ. Première, je ne sais pas si on peut dire que c'est historique, si c'est chronologique, parce que les épîtres de Saint Paul sont-elles dans l'ordre chronologique, on ne sait pas. En tout cas, Romains, actuellement, dans le canon des Écritures, c'est les Romains qui viennent en tête. Donc, dès le début, on nous dit que l'Assemblée est semblable ou quelque chose est quelque chose comme le corps du Christ. Un seul corps du Christ. Dans la première aux Corinthiens, tout de suite après. De même qu'il n'y a qu'un seul pain, à nous tous, nous ne sommes qu'un seul corps. Car nous participons tous à cet unique pain. Ce qui vous explique, par exemple, pourquoi on ne prend qu'un seul pain à l'Eucharistie. On ne peut pas consacrer plusieurs pains, même si on est très nombreux, il y a un seul pain. Un tout petit peu plus loin, toujours dans 1 Corinthiens, vous tous, vous êtes le corps du Christ. Chacun de vous en est le membre. Alors, je pourrais multiplier, je ne veux pas... Ça deviendrait un peu fastidieux de vous donner toutes ces citations, mais il y en a quand même une page et demie. La structure, donc, de cette assemblée, de cette réunion, de cette convocation, Maxime disait la sainte convocation. Il disait, on pourrait traduire comme ça. Église, c'est sainte convocation. Cette assemblée se structure et ce concept part dans deux directions. Premièrement, l'Église est le corps du Christ, le corps mystique du Christ. Deuxièmement, l'Église est l'épouse du Christ. Cette convocation des chrétiens se dirige, chemine vers la formation, la construction d'un corps mystique qui est celui du Christ. Principe universel, c'est le Christ qui lui-même est le principe du salut, premier-né d'entre les morts, dit saint Paul dans Colossiens, la tête de la nouvelle humanité. Et il faut bien noter que dans l'esprit de saint Paul, l'Église, en fait, c'est l'humanité tout entière. Il n'y a pas... Basile le Grand disait, on n'en connaît pas les limites de cette assemblée, de cette réunion, de cette convocation. On n'en connaît pas les limites. Et effectivement, en lisant bien saint Paul, on se rend compte que dans son esprit, c'est l'humanité tout entière qui est destinée, même si elle ne l'est pas encore d'une façon structurelle, elle est destinée à être l'Église. Le Christ, souverain prêtre et roi, et l'Église lui est inséparable, elle est son épouse. Il faut aussi approfondir cette notion de corps mystique du Christ et prendre conscience, surtout à notre époque où on aime bien les sciences biologiques, de ce que signifie exactement être membre du corps d'un corps. Autrement dit, prendre conscience que nous sommes des cellules d'un même organisme. Et cet organisme vivant, dont le Christ est la tête, nous en sommes réellement membres, c'est-à-dire avec tout ce que ça peut toutes les conséquences que ça peut avoir. Par exemple, dans le corps humain, dans un organisme vivant, on peut reproduire, on sait maintenant qu'on peut reproduire le tout à partir de la partie. Et la greffe, enfin le bouturage par exemple, c'est bien la chose. Bon. Je ne sais pas si chez les organismes animaux c'est possible, mais enfin en tant que les recherches sont assez avancées dans ce domaine, les fameuses cellules souches. N'est-ce pas ? Donc, au point, si on transfère ça au niveau de l'Église, du corps du Christ, on peut se dire que chacune des petites parcelles de cette immense assemblée peut reproduire l'assemblée tout entière. Et c'est dans le fond l'idée du mot catholique, kataolon. Le fameux l'Église catholique. L'Église catholique, c'est l'Église qui reproduit partout, dans chaque membre, l'ensemble de la communauté, l'ensemble de cet immense corps mystique du Christ. Autrement dit, ici, nous sommes une dizaine, nous sommes l'Église partielle. On a la totalité des dons de l'Esprit-Saint, nous sommes l'Église catholique. Nous avons ce pouvoir, cette faculté, cette vertu, je ne sais pas comment on pourrait dire, de reproduire à nous seuls tout l'ensemble de l'Église. Et quand nous récitons le dimanche le credo en disant, je crois, l'Église une, sainte, catholique et apostolique, on dit bien qu'elle est une, mais on dit qu'elle est catholique, c'est-à-dire que partout où des membres de ce corps sont présents, le corps tout entier est présent. Ça, je pense que c'est important d'en prendre bien conscience. Et que nous sommes capables, si nous sommes deux ou trois réunis au nom du Christ, nous sommes l'Église. Et nous sommes là capables, à ce moment-là, de reproduire toutes les énergies que le Christ a mis dans son corps. Malheureusement, on n'est pas. Cette conscience se dissipe de plus en plus, se dilue de plus en plus. L'Église s'incarne dans un lieu et dans un temps donné, mais elle est non temporelle. Et elle est non géographique, elle n'est pas inclue géographiquement. Et rien dans cette pensée ne détruit son unité, c'est-à-dire qu'elle est en même temps une et en même temps multiple. D'ailleurs, au Moyen-Âge, il y avait. Grégoire le Grand nous dit, c'est même pas le Moyen-Âge, c'est Grégoire le Grand, il est mort en 600, Christus et Ecclesia una persona. Le Christ et l'Église. C'est une seule personne. Et cependant, elle est répandue sur tout l'univers. Vous voyez un peu le paradoxe. Quoi. Bon. Et ça, je comprends que vraisemblablement, la désaffection générale des chrétiens pour l'Église et les pratiques de l'Église viennent du fait qu'on n'a pas mis assez en avant ce mystère du corps. J'allais dire ce mystère biologique. Nous sommes, nous sommes liés biologiquement au Christ et il y a des conséquences, ça a des conséquences absolument évidentes. Il faut en tirer toutes les conséquences. Et je pense qu'on n'a pas suffisamment insisté sur ce point. Voilà, ça c'était la première partie de mon sujet. La deuxième partie avait pour but d'expliquer un peu comment historiquement les choses se sont développées à partir de Saint Paul. Les structures même des églises. Je vais vous dire pourquoi, parce que parmi nos trois églises, nous avons commencé une réflexion entre évêques à propos de notre objectif de devenir une seule église. Et finalement, on s'est rendu compte que peut-être c'était un faux problème. C'était peut-être un objectif pas aussi intéressant qu'on pouvait penser. Parce que, à partir de cette idée que nous sommes le corps du Christ, il n'y a qu'une seule Église. Donc on est déjà une seule Église. Et la pratique des apôtres n'allait pas du tout dans ce sens de l'unité, d'une unité formelle. Il y avait les Églises. Saint Paul en parle presque toujours au pluriel, n'est-ce pas ? Quand il parle des églises, comme on parlerait maintenant des paroisses. C'est à peu près pareil. Mais, à ceci près, c'est que ces églises, elles sont structurées autour d'une personne, et cette personne, c'est l'évêque. Donc, autrement dit, et là, je rejoins le Concile de Vatican II, étonnant, hein. Oui. Le Concile de Vatican II a voté un texte sur l'Église, un magnifique texte qui s'appelle Lumen Gentium, la lumière des nations, constitution sur l'Église. Malheureusement, ce texte, Maxime en faisait chaque année un grand commentaire. Est-ce que tu as entendu ce commentaire de Maxime ?
Non.
Maxime en faisait un commentaire au début de ses cours chaque année, parce que ça lui semblait fondamental. D'abord, il faut dire que pour les catholiques romains, c'était très important, c'était un retour à une théologie de l'évêque, une théologie de l'Église et de l'Épiscopat, qui avait été oubliée et mise sous le boisseau. Et malheureusement, depuis Vatican II, ils n'en ont pas tiré toutes les conséquences qu'ils auraient dû en tirer. En tout cas, je vais vous lire ce texte, et c'est pour introduire mon sujet à propos de l'évêque. Qu'est-ce que l'évêque ? Voilà ce que dit le Concile de Vatican, donc c'était en 1962. Hein. « Toute assemblée eucharistique relevant du ministère sacré de l'évêque est un signe de cette charité et de cette unité du corps mystique sans laquelle le salut n'est pas possible. » Citation de Saint Paul. Dans ces assemblées souvent petites, pauvres et éloignées les unes des autres, le Christ est présent. Lui qui, par sa puissance, rassemble l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. En effet, la participation au corps et au sang du Christ ne fait rien d'autre que de nous transformer en ce que nous recevons. Ça, c'était le père Schmemann. Alexandre Schmemann qui dit au début d'un de ses livres « On devient ce qu'on mange ». Donc, si on mange le corps du Christ, on a toutes les chances de devenir Christ soi-même. Du moins, de se greffer à ce corps mystique. Et oui, on est toujours dans la biologie. Hein. Je ne sais pas si vous voyez un peu où je veux en venir. Il y a une théologie biologique, ou biologie théologique. Ainsi les évêques, priant et travaillant pour leur peuple, répandent sur lui en abondance et sous des formes diverses la plénitude de la sainteté du Christ. Par le ministère de la parole, ils font passer. La parole, c'est Moïse, devant le Kaal, n'est-ce pas ? Par le ministère de la parole, ils font passer dans les croyants la puissance de Dieu qui apporte le salut, Romains chapitre 1, verset 16, et par les sacrements dont, par leur propre autorité, ils organisent la distribution régulière et féconde, ils sanctifient les fidèles. Alors, là, il y a une justification d'une certaine structure. Mais cette justification, elle ne date pas de Vatican II, elle ne date pas du Moyen-Âge, elle date des saints apôtres eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'évidemment, ces petits corps, ces petits morceaux de membres du corps mystique sont éloignés les uns des autres, et à l'origine c'était encore plus éloigné que maintenant. Même si on prend l'exemple de nos paroisses, nous aussi nous sommes quand même éloignés les uns des autres. Donc, il fallait qu'il y ait quelque chose qui les tienne ensemble. Alors les saints apôtres se sont dit, saint Paul en particulier, il faut transmettre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui transmette ces sacrements, c'est-à-dire cette énergie qui vient de l'Esprit-Saint, l'énergie divine. Et la première chose qu'ils ont fait, ils ont compris tout de suite après l'ascension, après la Pentecôte, ils ont tout de suite compris que leur message, leur témoignage, ne devait pas se perdre. Et sous l'initiative de Saint-Pierre, aujourd'hui, ils ont élu un remplaçant à Judas. C'est Matthias. Je vous lis, je ne sais plus à quel endroit ça se trouve. Je prends ma note. C'est dans Actes, mais je ne me souviens plus à quel...
1, 2 ou 3.
Oui, c'est tout à fait au début. Oui, bien sûr. C'est chapitre 1. Voilà. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis, assemblés. Au nombre d'environ 120 personnes, quand même. Et il leur dit, « Frères, il fallait que s'accomplisse ce que l'Esprit Saint a prédit dans l'Écriture par la bouche de David au sujet de Judas, le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Il était l'un d'entre nous et il partageait notre ministère. Cet homme a acquis un champ avec le salaire de son iniquité et s'étant précipité la tête en avant, il s'est déchiré par le milieu et toutes ses entrailles se sont répandues. » C'est affreux. C'est affreux. Cette histoire est si bien connue des habitants de Jérusalem que ce chant a reçu dans leur langue le nom d'Al-Kel-Mada, le chant du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants sous sa tente, et aussi que sa charge passe à un autre. C'est l'horrible psaume 109, le psaume des malédictions. Il faut donc que parmi les hommes qui furent avec nous durant tout ce temps, où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il fut enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui devienne avec nous témoin de sa résurrection. Ils ont vraiment eu le sentiment que le Christ avait choisi 12 apôtres, les 12, comme ça, par un caprice, mais pour une bonne raison. Donc, il fallait qu'il reste 12. On en présente à 2. Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, le juste, et Matthias. Alors, ils prièrent en disant, « Toi, Seigneur, qui connais les cœurs de tous, indique lequel de ces deux tu as choisi pour occuper dans ce ministère de l'apostolat la place que Judas a laissée pour s'en aller à sa propre place. Et on tira leur nom au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Ça, c'est le début de l'épiscopat. Élection. Il lui impose les mains. Consécration. Ça, c'est une partie de la théorie, de la théologie de l'évêque. La deuxième partie, c'est que ce témoin, puisqu'il s'agit d'un témoin, a une charge. Non seulement d'annoncer la parole, d'annoncer la bonne nouvelle, mais d'être le lien entre les divers membres. Et c'est saint Paul qui nous dit ça. Il nous dit, dans tous les corps, il y a des ligaments qui tiennent les membres entre eux, etc. Et l'évêque, c'est justement celui qui est le ligament qui tient les différents membres entre eux, dans l'organisme. Donc l'épiscopat, les évêques entre eux, sont comme des liens d'une église à l'autre église, d'une communauté à l'autre communauté. Et j'en viens à mon sujet du départ. Dans notre communion d'église, ce sont les évêques qui servent à l'unité, qui sont les garants et les images, les symboles dans leur personne de l'unité de l'Église, d'un seul corps. C'est pourquoi nous sommes très fidèles aux réunions que nous avons décidé de faire entre nous. On se réunit tous les 3 mois. Alors, on s'est dit que finalement, cette union, elle existe déjà d'une façon mystique. A-t-elle vraiment besoin de devenir formelle? Le problème se pose. Voilà, je crois, j'ai été un peu rapide parce que je me suis dit que je ne voulais pas vous endormir et vous laisser plus de temps pour avoir un dialogue entre nous. En tout cas, voilà, qui est l'évêque? La personne même de l'évêque est le signe de l'unité dans l'Église. C'est lui qui est l'homme de la paix, c'est pour ça que l'évêque ne dit pas « le Seigneur soit toujours avec vous », mais il dit « la paix soit toujours avec vous », parce que c'est l'homme qui vient pour pacifier. Et je vais vous dire, vous faire une confidence personnelle, il y en a qui le savent déjà. Le jour de ma consécration, le 17 décembre 2006, pendant la veille ou l'avant-veille, Monseigneur Vigile m'avait dit, « Oh, tu sais Grégoire, tu vas recevoir une grâce, tu vas recevoir une grâce. Fais bien attention parce qu'à ce moment-là, il faudra que tu saches ce que tu dois demander parce que tu auras l'opportunité, l'occasion de demander quelque chose à Dieu et qu'il te le donnera immédiatement. » Je me suis dit, notre bon vigile, il commence à se faire un peu vieux quand même. Là, il est un peu... Bon, et bien ça s'est produit, et ça s'est produit d'une façon tout à fait étonnante et spectaculaire. Enfin, pour moi. J'étais à genoux devant l'autel, et les 5 évêques avaient... Il y avait l'évangile sur ma tête, les 5 évêques... 4, ils étaient 5 4 le 5e était moi. Avec toutes les mains par-dessus... Et tout d'un coup, j'ai eu là une chaleur comme si on m'avait mis un radiateur brûlant sur la poitrine. Mais chaud, chaud, vous ne pouvez pas imaginer. Et j'ai, dans la seconde, je me suis dit, mais ça doit être ça la fameuse grâce. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est bienheureux les pacificateurs. Et je crois qu'effectivement, à partir de ce moment-là, quand je me suis relevé, je n'étais plus le même bonhomme. J'étais plus le même homme. Et à partir de ce moment-là, j'ai effectivement développé une sorte de charisme pour de pacification. En tout cas, j'ai été pacifié intérieurement, moi, mais beaucoup de gens l'ont senti. Et il est l'homme de la paix. Les évêques sont les hommes de la paix, ceux qui entretiennent le lien de la paix, dit saint Paul. C'est un lien très important. Le lien de la charité est un lien pacifique, n'est-ce pas ? La paix et la charité, ça coule ensemble. Voilà mon projet. Donc, actuellement, je suis en train d'écrire, et ça fait déjà 3 ans que j'ai commencé, un texte important sur la conformité, l'ecclésiologie réellement conforme à la tradition apostolique. Et je crois que les apôtres avaient de l'unité et de l'ecclésiologie, enfin de l'organisation de l'Église, une idée beaucoup plus libre et beaucoup plus juste que celle que nous avons actuellement. Et qu'il faudrait certainement réfléchir et revenir à ce genre d'organisation ecclésiale de façon, comment dire, si on veut réellement faire l'unité des chrétiens, puisqu'il en est question, et que apparemment c'est en bonne voie, mais bon, avec des difficultés, grosses difficultés. Et puis alors une chose que, bon, j'ai pas insisté, mais peut-être c'est intéressant pour votre réflexion personnelle, à propos du fameux verbe kaléo, le fameux kaléo, appelé, convoqué, il a donné en latin le verbe calare, qui a donné en français clamer, acclamer, réclamer.
Ah oui.
Oui, c'est intéressant parce que ça peut faire comprendre la notion d'assemblée convoquée, de convocation. Parce que l'idée, c'est que, en fait, c'est Dieu qui forme l'Église. C'est lui qui est la source de l'Église. C'est lui qui convoque, c'est lui qui appelle. Nous sommes réellement. Voilà. Et la traduction de Matthieu 16, on pourrait dire. Si on fait une rétroversion avec les mots sémitiques, je bâtirai mon Kaal, ma convocation. Bon, voilà.
Oui, parce que l'histoire de tu es Pierre et toutes les pierres.
Oui, non, c'est pas ça du tout.
C'est pas ça du tout.
C'est sur le fait que Pierre a dit tu es le Christ, fils du Dieu vivant.
Voilà.
Sur cette déclaration-là, on construit la convocation. On ne dit pas « tu es le Christ, fils du Dieu vivant », on n'est pas dans l'Église, on n'est pas membre de ce corps mystique. Ce n'est pas autre chose que ça. Il n'y a pas une construction formelle, là.
C'est ça. Et réclamer, il faut prendre dans quel sens ? Réclamer.
Oui.
À la limite, c'est le Christ, il nous réclame.
Oui, il y a aussi acclamer.
Oui, mais c'est parce qu'il y a le mot.
Et vous voyez, tout ça va ensemble. Acclamer. Dieu nous réclame, mais peut-être que nous aussi, on peut réclamer quelque chose. il y a, vous savez, l'histoire d'Abraham et le petit échange commercial entre Abraham et Dieu au moment de l'histoire de Sodome, il y a un dialogue authentique, il y a quelque chose, un double mouvement. Mais Dieu est le premier, et c'est quand même Dieu qui est à la source, qui est le départ de la chose, c'est lui qui convoque.
Ça veut dire que c'est puissant, c'est puissant,
oui.
C'est pas simplement une invitation. C'est un appel fort, c'est une réclamation. Je t'appelle, je te veux.
Ah, voilà.
C'est puissant, moi je sens une puissance là-dedans, dans ce caléo.
Bien.
Le caléo, comme vous dites, il y a donc le coffre et le lamette.
Dans Cain, il y a
le coffre et le lamette. Lamette, c'est l'Esprit Saint. Et le coffre, c'est donc le divin.
Oui,
Entre les deux, c'est le vaf.
Oui.
Vous êtes sûr, c'est le vaf entre les deux?
Non, c'est
le
ré.
J'hésitais entre les deux.
J'ai bien aimé tout ce que tu dis, mais je trouve que c'est une vision très idéale des choses et de la vision de la conception de l'Église.
Oui, c'est une vision purement théorique.
Oui. Et malheureusement, dans la pratique...
On en est loin. Mais je pense que si on ne commence pas par remettre la théorie d'aplomb, on ne pourra pas avoir une pratique féconde. Et il faut commencer par bien comprendre...
Vous définir l'objectif.
Je pense que si on n'a pas une théologie, une pensée juste, on ne pourra pas avoir une praxis juste.
Mais comment éviter cette tendance universelle chez l'homme de l'esprit de domination qui s'est introduit dans l'Église qui a absolument tout gâché? J'aime beaucoup la vision organique de l'Église que tu as développée, qui est magnifique.
Oui.
Mais cette organique,
je pense qu'il faut.
Comment faire?
Il faut multiplier les possibilités de mettre ça en avant et en tirer toutes les conséquences qu'on peut en tirer. Se comporter comme si nous étions vraiment des cellules d'un même corps. Quelles sont les exigences que ça amène? Sinon, on passe les cellules anarchiques ou dominatrices, c'est le cancer, hein, et autres maladies. Mais je pense que c'est à partir de là. Si on n'a pas une vision juste, on ne peut pas avoir une action féconde. Et ça, je suis d'accord, mon entretien ne porte pas sur les côtés pratiques de la chose. Bon, on n'est qu'au début d'une réflexion.
Mais je pense qu'après cette réflexion, il y a un travail d'humilité.
Oui.
C'est ça le travail. On prend conscience. Moi, j'ai beaucoup aimé votre exposé parce que j'ai pris conscience que nous sommes le corps du Christ, mais on ne le vit pas. Donc il faut d'abord prendre conscience, et puis après il y a un travail d'humilité, c'est-à-dire de, je pense toujours à cette phrase d'Erasme qui disait « Tout ce que Dieu te demande, c'est de sortir de toi-même et de laisser Dieu être Dieu en toi. » Donc c'est un travail de dépouillement de son ego. C'est ça l'humiliation. Dieu est le premier, mais après l'homme, il doit travailler sa terre. Travailler sa terre, c'est travailler à se dépouiller de son ego pour laisser Dieu être Dieu dans toutes ses cellules.
Et ça, c'est à plusieurs niveaux. C'est au niveau individuel, et c'est au niveau des communautés aussi.
Oui. C'est là la lutte contre la tendance au pouvoir, te rappelle Marc.
Oui,
parce que
Oui, mais après 2000 ans, on peut se dire...
Il y a eu des moments où ça a dû fonctionner. Parce que quand on lit Saint Paul, on voit qu'il y a... C'était pas toujours paisible, mais ça a dû fonctionner pendant un certain temps.
Mais justement, à l'époque apostolique, les fonctions ne sont pas si clairement définies. Il y a les diacres qui sont définis dès le départ, avec Étienne et les diacres qui sont choisis. Et puis il y a les presbytes qui sont les anciens des communautés.
Oui.
Et puis émerge progressivement l'évêque.
Oui. Et alors là, je ne voulais pas cité. J'avais un certain nombre de citations de Saint Ignace d'Antioche, parce que c'est lui qu'il faut signer pour ça, à propos de l'évêque. Petit à petit, la notion d'évêque n'est pas apparue entièrement, comme ça, d'un coup, descendant du ciel. Non, la conscience s'est développée assez lentement. Et dans Saint Ignace d'Antioche, il y a des étapes, des choses très importantes. Et toujours, l'évêque est en lien avec les anciens. Il n'est pas un homme isolé. Il est toujours lié aux anciens. Le presbytérium, les prêtres, c'est les anciens. Ce n'est pas autre chose que ça. Et il y a toute une série de... On peut trouver un développement très clair. Mais dans les premiers siècles, moi je pense que ça a dû fonctionner. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas y revenir tranquillement, sobrement.
Et aussi le problème des évêques, c'est qu'il n'y a personne au-dessus d'eux, quoi. Et alors à ce moment-là, ils se sont tous des églises un petit peu au-dessus.
Non, mais justement, voilà. Ça n'est pas juste. Les évêques n'existent que quand ils sont en communauté ensemble. Ils sont un corps. S'ils sont hors du corps, ils ne sont plus rien.
Alors, regardez, par exemple, je ne sais pas moi, en Russie, tout ça, ils sont tous...
Oui, non, mais actuellement, on est dans une ecclésiologie, à mon avis, complètement irrationnelle et surtout pas du tout conforme à ce que les apôtres ont fondé. C'est ça le...
Mais comment redresser la barre? Ce que l'homme est, ça dégénère toujours. On confie quelque chose aux hommes, et bien les choses dégénèrent rapidement, notamment à cause de cette volonté de domination.
Il y a un père du désert qui raconte ça. Il y a un apophtègme des pères du désert qui dit... Il y a un père qui avait trouvé un trésor ou je ne sais quoi, une nouvelle plante, enfin bon. Et alors le diable est venu tout de suite et dit « Ah, nous allons t'aider à l'organiser. Nous allons t'aider à... » Monseigneur Jean a raconté cette histoire assez souvent. Je ne m'en souviens plus exactement des détails, mais on sentait bien qu'on vous donne un trésor et immédiatement vous en faites quelque chose de complètement aberrant. Hein. C'est une tendance générale. Oui. Il faut lutter contre ça.
Mais concrètement, comment lutter contre ça? Parce que comment empêcher que les autorités qui ne dépendent finalement...
Non, mais il n'y a pas d'autorité. En parlant de l'évêque, vous ai-je dit un mot sur l'autorité de l'évêque? Non. L'évêque est un témoin privilégié, un témoin garanti, par les autres témoins, puisqu'il a reçu la grâce que des évêques qui ont reçu la grâce, des évêques qui ont reçu gna, et on remonte aux mains des apôtres. Bon, donc nous sommes des témoins garantis, mais nous sommes des témoins des hommes devant Dieu et des témoins de Dieu devant les hommes. Mais le lien, les ligaments qui tiennent le corps entre eux, mais il n'est pas question d'autorité. Là, il n'est pas question d'autorité. L'autorité, elle vient du fait
de la personne.
Simplement du fait de cette situation. Mais ça n'est pas une tyrannie, ça n'est pas une...
Je voudrais ajouter que le mot autorité ne veut pas dire pouvoir.
Voilà.
C'est une définition que j'ai entendue, comme on dit, ça a passé, ça a devenu officier, le chef a dit, le mot autorité veut dire être capable de faire grandir.
Monter quelque chose.
Avoir de l'autorité, c'est presque le contraire.
Oui.
C'est être capable de discerner dans celui qui est en face de lui tout son potentiel et de le faire grandir. C'est merveilleux comme définition d'autorité. C'est pas autoritaire.
Pour aller dans le sens de François, Saint Paul, il parle de ministère. Le ministre, c'est un serviteur. C'est serviteur dans le sens grec du terme.
Mais si le service était au centre de tout ce qu'on fait dans l'Église, les choses marcheraient
bien. Oui, mais est-ce que il y a quand même... Je suis d'accord, c'est un petit peu l'avocat du diable dans l'histoire. On parle toujours de l'autorité. Mais cette autorité... Qui la donne?
Mais c'est celui qui l'accepte.
On attend de celui qui est là qu'il nous, d'une certaine façon, nous dirige. Et donc, on l'incite parfois à avoir de l'autorité, je pense.
Oui.
Et que ce n'est pas toujours nécessairement... Je comprends que c'est très tentant, quelquefois, de dire, mais ils m'ont nommé là, ils m'ont fait ci, maintenant je vais... Mais quelquefois aussi, on va le
titiller. Sans pouvoir une décision à quelqu'un d'autre, c'est assez facile.
Voilà, exactement.
C'est même reposant, c'est tout ce qu'on veut. Oui, mais il y a des tendances comme ça. Il y a des gens qui ont tendance à préférer que quelqu'un d'autre prenne une décision à leur place.
Oui, mais effectivement, que ce sont ces personnes qui créent le cléricalisme. Ils donnent le pouvoir aux clercs.
C'est certain.
Oui, ils en sont pas voir.
Mais je trouve que la référence au Christ est équilibrée par celle à l'Esprit Saint, qui est tout aussi essentielle.
Oui.
Et l'Esprit Saint inspire chacun.
Chaque fidèle
est aussi important qu'un évêque ou qu'un archevêque.
Oui.
Et je trouve que dans...
Oui, il y a un canal, c'est pour ça que je parle même pas d'inspiration, je parle de lien, de incarnation de l'unité, incarnation de ce qui tient les cellules ensemble. Parce que dans un organisme vivant, on ne voit pas qu'est-ce qui tient les choses, qu'est-ce qui fait que l'organisme fonctionne, il se dérègle quelquefois, mais qu'est-ce qui fait qu'il fonctionne et que chacun a sa place et chacun a son... Il y a quelque chose d'un peu mystérieux là. Donc, et ce mystère semblerait être le ministère de l'évêque. Le vrai ministère de l'évêque, c'est de tenir les choses ensemble.
Mais là, on parle vraiment de l'idéal, je comprends très
bien. Oui, bien sûr.
Et je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Bernard, effectivement, l'autorité dirigée, c'est tout à fait sûr. À partir du moment où vous n'avez plus de référence, si vous restez un homme humble, il n'y a pas de souci, mais si vous n'avez plus de référence à la tentation, effectivement, d'imposer de son autoritarisme, etc., ou en tout cas, vous faire un petit peu ce qu'on a envie, qui... si ce n'est le peuple royal à la limite, qui pourrait remettre un petit peu en lui disant, attention mon ami, tu commences à déconner là. Voilà, c'est important d'avoir quelqu'un qui pourrait le secouer ou le remettre, parce que tout seul c'est difficile de garder, c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça me dérape? Voilà, c'est ça le problème. Parce
qu'il
le
savait,
et rester en relation, en lien, réciproque. Il doit être à l'écoute de ce qui lui est dit.
Double dialogue, oui. Oui, il parlait aussi du fait que les évêques viennent des apôtres puisqu'ils reçoivent l'imposition des mains.
Oui.
Donc c'est la question de la succession apostolique.
Oui.
Or, j'entends à ce propos-là des discours un peu, soit très rigoristes en disant la succession apostolique, vous ne l'avez pas, ou vous ne l'avez qu'à moitié, etc. Prouvez-le. Et puis des discours beaucoup plus lâches, disant ben, finalement, ça se diffuse dans l'Église.
Mais même quelqu'un comme Vladimir Lossky disait qu'on ne peut pas prouver la présence des mains de l'apôtre dans aucune des lignées apostoliques. Ce sont des lignées symboliques. On n'est pas sûr qu'à un moment donné, il n'y a pas eu une interruption, etc. D'ailleurs, les usages étaient très différents d'une église à l'autre. Par exemple, en Égypte, les Égyptiens ont toujours été un peu... Bonjour. Les Égyptiens ont toujours eu des usages un peu particuliers. Vous savez que, par exemple, actuellement, pour élire le patriarche d'Alexandrie, il y a un tirage au sort. Ils font comme dans... Et c'est un garçon qui a 12 ans et qui est bien tiré au sort parmi les trois candidats qui ont été désignés au milieu de... Bon. Mais ils avaient encore un autre... L'usage qui s'est perdu, mais qui existait au moins jusqu'au 7e siècle, c'est que c'était les prêtres qui imposaient les mains aux nouvelles évêques. Ce n'était pas des évêques, C'était l'ensemble des prêtres. Oui. Donc, tu vois, il y avait une notion pure, j'allais dire, un peu symbolique de la succession apostolique. Ce n'était pas quelque chose de formel. Ça n'était pas quelque chose de... contact charnel. Bon, c'est vrai que ça a quelque chose de troublant, le contact. Moi, je l'ai senti personnellement. Je vous assure que c'était quelque chose de très puissant. Je suis pas de ceux qui cherchent des choses merveilleuses partout. Hein, j'ai eu des pieds sur la terre. Et vraiment, ça m'a secoué. Ça m'a vraiment secoué. Donc, je pense que ça n'est pas à doute. Hein. Mais c'est certainement une transmission pure, d'abord symbolique, plus que mécanique. Hein. Je ne sais pas si le mot mécanique convient.
Bon. Il y a quelque chose que je trouve de bien, malgré tout, dans cette élection du patriarche d'Alexandrie,
oui.
C'est qu'il y a, je pense, comme dans les autres églises, les évêques entre eux discutent de qui va pouvoir être, qui oui. aurait la capacité oui. de devenir le patriarche,
oui.
mais qu'après, oui. il y a, je vais dire, de par la main de l'enfant, l'intervention.
Ah oui, mais c'est tout à fait étonnant. Mais c'est surtout parfaitement conforme à la Sainte Écriture, conforme aux Évangiles, au Nouveau Testament. Moi, je trouve ça magnifique. Mais c'est encore plus extraordinaire, c'est que c'est pas seulement les évêques qui désignent les trois. Non, il y a tout un ensemble de chrétiens, des paroisses, des diocèses, des laïcs et des femmes. Et non, pour ça, l'église d'Alexandrie, il y a des exemples à suivre chez eux, vraiment. Il y a des réflexions à avoir sur leur pratique.
Et comme l'action, qui est chantée par le docteur Royal.
Oui, Axios.
Ça semble être très théorique aussi.
C'est purement théorique, puisque ça a eu lieu après. J'ai toujours trouvé ça un peu bizarre. Et il faudrait refaire les choses, mais dans l'autre sens.
Oui.
Présenter le candidat. Donc, en fait, c'est une confirmation de ce que l'évêque vient de faire. Le fameux axios. Parce que l'élection, le vrai axios, il a lieu avant. La vraie élection, elle a lieu avant. Vous y étiez à mon élection, vous.
Oui.
Bon, parce que moi, j'ai insisté beaucoup. Quand Rachel et Alphonse m'ont téléphoné, au mois d'avril 2006, en me disant, voilà, on a trouvé un nouvel évêque. Ah bon? J'ai dit, qui? C'est toi. J'ai dit, non. Mais si. Et là, j'ai dit, écoutez, bon, puisque vous ne plaisantez pas, j'accepterai, mais à une condition, c'est qu'il y ait une élection authentique. Je ne veux pas que ce soit... Autrement. Il y a eu une élection, donc l'action, il était là, en fait. Et en plus, non seulement il y avait eu une élection par écrit, parce que les gens ont répondu quand Alphonse a envoyé ses bulletins, mais en plus, on s'est réunis le 1er novembre, vous y étiez.
Il y a eu Axios.
Axios, c'est-à-dire il est digne. Il est digne. On chante ça le jour des ordinations des prêtres.
Ah oui.
L'évêque demande Axios, et on répond Axios, il est digne. Bon. Donc, ça me paraît essentiel. Et c'est vrai que ça m'a toujours amusé de voir qu'on le chante à la fin. C'est pas très logique. Il faudrait renverser l'ordre des rites.
Et c'est très logique de pouvoir dire un action.
Mais il faudrait le dire avant.
Et dire, oui. On n'est pas d'accord.
C'est la douche froide, là.
Oui, mais c'est ça.
Mais, évêque, je peux revenir à la question de la succession apostolique. Moi, je dois te dire, je ne suis pas du tout crispé là-dessus.
Non,
c'est
je m'en doute.
Dans les choses autrement. Mais tu sais bien que nos frères orthodoxes classiques sont très rigoureux là-dessus. Et encore l'autre jour, on a rencontré un prêtre en France qui nous disait, mais il y a un gros problème chez vous, vous n'avez pas la succession apostolique.
Voilà. C'est pas vrai.
On ne sait pas le réponse.
Non, non, alors ils ont une interprétation, inexacte de la succession apostolique. Même dans le sens le plus bas, le plus mécanique du terme. Parce que nous l'avons, la succession apostolique.
Qui vient de...
Ah oui, 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 et de trois endroits différents. Elle vient, pour ce qui me concerne, parce que à chaque fois que nous consacrons un évêque, on établit la liste. Et elle remonte à Saint-Pierre. Ça, aucun problème. Je te montrerai la liste.
Je ne comprends pas bien. Comment est-ce que ça fonctionne, cette succession apostolique? Qu'est-ce qui fait que nous faisons partie?
Eh bien, c'est très simple. Moi, j'ai été consacré par Monseigneur Vigile. Lui-même a été consacré par trois évêques, qui eux-mêmes avaient été consacrés, etc. Et on a la liste de ces consécrateurs, et on ajoute chaque fois. Et moi, si un jour je participe à une consécration épiscopale, on ajoutera mon nom sur, chaque fois. Et cette liste, elle existe réellement, et elle n'est pas théorique, là, vraiment. Bon. Et par exemple, pour ce qui me concerne, la succession vient d'Antioche et de Constantinople. Par Constantinople, par les Ukrainiens, et il y a parmi les consécrateurs précédents, les ancêtres, l'oncle de Monseigneur Jean, qui était métropolite de Kiev. Oui, oui.
C'est pour être proche du peuple, disons, parce que moi j'ai par exemple ma soeur, qui m'a dit, vos évêques, ce sont des évêques autoproclamés. Voilà. Bon, qui me dit, moi, commun des mortels, comment vais-je pouvoir remonter la liste pour prouver que tous ces évêques de la liste, il n'y en a pas un parmi ceux-là qui était autoproclamé.
Mais c'est pour ça, ça fait rien, parce qu'il y en a toujours au moins trois. Donc sur les trois, il y en a toujours au moins un qui... C'est pour ça qu'il ne faut pas un seul évêque.
Oui, parce que tu...
Il faut trois
évêques. C'est magouille quelque part, avec trois on peut espérer...
Oui, avec trois on peut... Bon, alors, donc, parmi les trois, il y en a toujours au moins un qui n'est pas autoproclamé. C'est, j'allais dire, statistique, quoi.
Parce que bon, les humains...
Non, mais c'est un problème...
Mais tu sais, quand on cherche des poids, quelqu'un...
Oui, je pense que...
Mais je trouve qu'il y a une intelligence, une formation de répondre calmement
aux
questions, c'est quand même mieux que de voir le mec dans l'eau,
Oui, ce serait intéressant d'avoir cette
question,
parce qu'on est confronté de temps
en temps. Oui, écoute, moi je ferai une copie. Là, il y en a quand même 4 pages. Hein. Ça remonte...
On nous interpelle pourtant, ce
prophète. Parce que vous comprenez bien que chaque fois, il y en a 3.
Mais pour mettre la vie sans doute,
pour pas dire... Souvent, c'est la même lignée. Pour ce qui me concerne, quand j'ai regardé en détail, il y a au moins deux lignées différentes. Une qui vient d'Antioche, et l'autre qui vient de Constantinople. Mais elles se rejoignent aux apôtres. Quand on arrive au premier évêque, il n'y en a pas 36.
Père évêque, moi je voudrais parce que vous avez parlé à un moment donné de l'unité des chrétiens.
Oui.
Et que dans cette unité des chrétiens, vous voyez... Tous les protestants, hein, voyez tout le monde là-dedans.
Oui, oui.
C'est pas seulement l'unité des chrétiens catholiques.
Non.
Parce que déjà là, il y a des maronites.
Non,
il y a
je vais même plus loin, puisque je vous ai dit, il me semble que la vision de saint Paul, c'est que l'Église, c'est l'humanité tout entière. L'Église, c'est l'humanité. Dans sa destinée, c'est l'humanité. Donc il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Mais quand j'ai parlé de l'unité des chrétiens, oui, c'est de l'unité de tous les chrétiens, de tous ceux qui confessent que le Christ est fils de Dieu.
Voilà. Parce que finalement, c'est la seule chose.
C'est la source.
La seule unité la autour de laquelle on doit être.
Oui.
C'est pas dans la forme que
non.
on a pris l'un et l'autre. Oui. Dans,
c'est dans la dans parole de Pierre. De,
oui.
Oui.
Oui. Oui. C'est pour ça qu'il faut citer Matthieu 16, verset 18. Est-ce que vous avez, vous connaissez l'endroit où ça s'est produit, cette... Non. Vous avez été en Palestine, non? Vous n'avez pas été?
Pas près du lac.
Et moi, j'étais où?
C'était à Tagba, à côté...
Le lac de Tibérie.
À Tagba, là où nous avons célébré, au bord, de la, au bord de, du lac. Au bord du lac de... Et il y a là, maintenant, un monastère de bénédictins allemands, avec beaucoup de moines, très beau monastère, juste à cet endroit-là, la confession de Pierre.
Oui.
Le lieu de la confession de Pierre.
Il y a eu un attentat là.
Oui, il y a eu un attentat.
Mis,
oui,
feu,
oui.
Hein.
Oui, oui, oui.
Il
n'y
a pas très longtemps, pas 3-4 ans.
Oui, oui.
Ah,
oui.
Il fait chaud.
Il faisait très chaud. C'était horrible. C'était horrible. Il y a encore, on a célébré dehors,
oui.
près du lac, il ne faisait pas trop chaud, mais il y avait un vent. On a décorné les deux.
Nous, on a parfois célébré à l'intérieur de la...
Ah oui, à l'intérieur de la basilique, c'était impossible. Impossible.
Je peux poser une autre question. Je trouve que tout ce que tu dis, c'est bien reçu chez nous, parce que on prêche à des convaincus.
Oui.
Nous,
oui.
nous sommes dans l'église, nous sommes
oui.
là.
Oui,
mais attends, ma question, c'est que... Tous les jeunes, il y a des tas de jeunes maintenant qui ont un autre idéal, je dirais peut-être que dans la durée ça se rejoint, mais l'idéal de la transition, d'un monde plus juste, de s'intéresser aux pauvres, aux migrants, etc., et qui ne font plus nominativement partie de l'Église en tant que telle, en tant qu'Ecclésia, institution telle qu'on la connaît.
Oui,
dans paroisse, etc.
Je comprends.
Et comment...
c'est pour ça que je parle de croyants non pratiquants.
Oui. Mais comment toucher ces personnes? Parce que très souvent, elles disent, mais tout ça, et j'ai bien entendu de la part de nos filles aussi, ça c'est
vieux. Moi je crois que,
justement,
il faut commencer par ne pas les rejeter et ne pas les brusquer.
Les admirer, il faut commencer. Il faut commencer par les admirer.
Qui est le cas, d'ailleurs.
Ah, oui. Et après, on bâtit.
Au contraire, on aurait envie d'aller avec eux.
Oui, justement. Il faut commencer par les admirer. Oui.
Mais exactement.
Et il y a parfois comme ça deux langages parallèles, si tu veux. Il n'y a pas vraiment des...
En prenant conscience qu'on est des cellules de même corps, il faut leur ça, je crois qu'on peut l'annoncer d'une façon claire. Et nous sommes les cellules d'un même corps. Et se conduire comme tel et montrer que c'est quelque chose d'important. Enfin.
Mais ça, je ne suis pas sûre que ça
dérive. Pour sa croissance spirituelle intérieure, pour son harmonie intérieure.
Ce qui ne peut nous rejoindre, c'est l'amour qu'on a. Oui, c'est ça qui a pris la pas qui va nous rejoindre. L'amour qu'on a les uns pour les autres.
C'est pas les paroles. Non,
c'est à l'amour des uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples.
Mm-hmm. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Mm-hmm.
Mais moi, je dirais que, étant quand même fort en présence de gens qui font un chemin magnifique, pour moi, son cri, on quasi la foi, etc., je trouve que l'Église a mauvaise presse. C'est épouvantable.
Il y a une fausse conception. L'Église, ça n'est pas ça. L'Église, ça n'est pas cette chose...
L'institution.
Les aimer, la façon dont elle se comporte...
Oui, je suis d'accord.
Elle n'a fait que du tort, quoi. Et chaque fois que je reviens, j'essaie, quand c'est possible, je dis, mais vous ne voyez pas tout ce qu'il y a eu de bon, de beau, et
oui.
etc. Et on n'entend même pas.
Non.
Comme si on s'appuyait avec conviction sur ce qui n'a pas été et les dérives de l'Église et Dieu sait s'il y en a quoi aussi. Mais ça, et alors, on a un peu le bec cloué face à ça, mais on ne veut pas, ils ne veulent pas entendre parler de, enfin, selon moi, de l'Église.
Non. C'est pour ça qu'il faut même, j'allais dire, éviter de parler, de prononcer le nom. Parce qu'il y a une connotation malheureuse. jusqu'à ce que nous ayons nettoyé ce concept, il faut éviter de... Moi, je...
L'Église est attachée maintenant à une institution humaine.
Exactement.
Au même titre exactement. Que le Parti communiste, ou tout ce que tu veux, enfin, n'importe quoi, ou le Cercle de Lorraine, ou les Libres. Enfin, tout ce qui est une association, on va dire, un peu institutionnalisée,
voilà.
Va vers des dérives, et c'est ça qui, pour le moment, est rejeté en bloc. Ils ont raison. Ils ont raison.
Avec des motivations nombreuses. Bien sûr.
On entend parfois d'ailleurs que l'avenir de l'Église n'est plus dans l'Église institution telle qu'on l'a connue, mais dans des petites communautés de prière qui se réunissent régulièrement et qui célèbrent Dieu dans la prière.
Mon sujet, c'était uniquement ça, montrer qu'en fait, c'est quand même réellement l'Église.
Oui.
Parce qu'on a l'impression que c'est diaspora, c'est pour se faire plaisir, c'est parce qu'on est en perte de vitesse, etc. Pas du tout. Pas du tout. C'est réellement l'Église. Et si on doit la reconstruire, si on doit la propager, ça ne peut être que de cette manière, par ces petites communautés qui étaient à l'origine. Celle de Saint-Paul, combien ils étaient autour de Saint-Pierre? 120 personnes. C'est beaucoup, mais c'est très peu par rapport à...
Mais par rapport aux 3000 ou aux 7000 qui suivaient le Christ.
Exactement, exactement.
Dont on parle dans la multiplication des pains.
Je voudrais vous partager une expérience du temps où j'ai beaucoup fréquenté les évangélistes. J'étais pendant plusieurs années assidûment à leur culte. Et on m'a fait lire un livre qui s'intitulait « Le véritable projet de Jésus pour son Église, la cellule vivante oui. ». Et nous étions dans cette église évangélique divisée en petites cellules par quartier, géographique, 10-12 personnes, et c'était effectivement très vivant. Et j'ai beaucoup aimé cette... parce que c'était des cellules qui, une fois le dimanche, se retrouvaient ensemble. Mais ces cellules... proche géographiquement et proche socialement, etc., était très vivante, effectivement.
Ah, c'est ça. Et rien que le mot cellule, c'est déjà biologique. Oui, et c'est une bonne idée d'appeler ça des cellules. Les communistes aussi appellent ça des cellules. mais c'est vrai que il suffit de lire le Nouveau Testament pour se rendre compte que c'était comme ça à l'origine. Et la pureté des origines, c'est quand même important. Il faut éliminer tout ce que l'histoire a ajouté de poussière et de
scories.
Il faut quand même retrouver quelque chose d'une colonne vertébrale, par exemple les sacrements, les évangélistes, je ne sais pas comment ça se passe, on se retrouve alors quoi. Humainement, c'est tout à fait normal et c'est très bien. Mais l'Église, c'est quand même ça, plus autre chose. Quoi.
L'Église, c'est la réunion de toutes ces petites cellules. C'est le corps mystique du Christ.
Avec un référent.
Oui, oui.
Ben, le Christ.
Oui, mais c'est ça, mais je comprends les questions de Myriam. Ça peut être une réunion de toutes les piques, mais pour faire quoi? Pour se réunir, pour manger un
peu. Non.
Mais c'est un peu la Bible, je veux dire que c'était un peu parfois la différence que l'on
fait. Le local, la convocation, c'est pour écouter la parole de Dieu. C'est pour écouter la parole de Dieu et en répondant, Amen. Ils répondent, à la fin, le peuple dit quelque chose, il dit Amen. Il y a une entrée en dialogue, il y a une entrée en communion. C'est pas effectivement n'importe quelle réunion, cette convocation sainte.
Par exemple, l'église, le lieu de l'église ici, est-ce que ça peut être un lieu où il y a autre, où se passe autre chose que la pratique de la
liturgie?
Oui, bien sûr.
Oui, parce que bon, je ne sais pas, mais... Est-ce que ça peut être un lieu de conférence sur certains sujets? Est-ce que ça peut être un lieu de méditation de bouddhiste? Est-ce que ça peut être un lieu où on parle de la nature? Est-ce que ça peut être ou bien pour vous, non? Est-ce qu'on loue
Dès l'instant qu'il s'agit de choses spirituelles.
Qui respectent.
Oui, respectueux du lieu. Je ne vois vraiment pas pourquoi on n'accepterait pas, au contraire.
C'est une question de discernement. On ferme cette porte
au contraire.
Non, bien sûr.
Les politiques d'extrême droite, non.
Du moment qu'il s'agit d'action spirituelle, d'un propos spirituel, il n'y a aucun problème.
Parce que Pékin et Yann, ils se ressentent que c'est deux.
Les deux extrêmes, gauche et droite, ce sont tous des.
Mais parfois, j'ai l'impression que nous avons ouvrir nos portes à faire de l'accueil simplement, quoi, dans nos murs, et faire de l'hospitalité et ne pas revenir avec nos paroles nécessairement, mais simplement.
Non, mais répondre aux questions. Et répondre aux attentes.
Et savoir bien répondre aux questions.
Moi, c'est comme ça que je fais à Boisobry. Hein. Souvent, on sonne, les gens veulent aller voir la tombe de Yul Brynner,
ah oui.
Et ils veulent voir la chapelle.
On peut pas avoir une chronique de Yul
Brynner. Alors,
ça passe déjà beaucoup.
Alors, je leur donne la clé pour aller au cimetière, et quand ils me rendent la clé, je leur dis, vous voulez voir la chapelle? Ah. Il y a des belles peintures. Ah oui, ah oui, alors ils rentrent dans la chapelle, et là, généralement, on entre en contact parce qu'ils posent des questions, et je réponds aux questions.
Mais justement, il faut quelqu'un qui réponde aux questions.
Ah oui.
Et c'est là la question.
Oui.
Ben c'est ça, donc il faut un enseignement, il faut une église.
Oui, il faut qu'il y ait quelque chose. C'est sûr, si vous ouvrez la chapelle, c'est pas pour,
il faut savoir ce qu'on fait.
Pour que tout le monde puisse rentrer comme ça, pour rien. Mais au moins qu'il y ait quelqu'un.
Oui, on a eu une fois une professeure de, c'est ici, de Nivelles ou de Livoire, je ne sais pas, qui faisait une visite d'une mosquée, d'une synagogue, d'une église catholique et
oui,
d'une église
pourquoi
orthodoxe.
Pas. Pourquoi
et elle est venue avec sa classe.
Oui, très bien, ici, très bien.
Un jour après-midi, il y a 2-3 ans. Et puis elle m'avait dit, je leur ferai l'année prochaine, il y a eu les attentats à Bruxelles. Et du coup, ça devenait plus difficile de déplacer tous les enfants.
Oui.
La direction s'est opposée. Mais elle était venue et c'est vrai que c'était... Et poser les questions, pourquoi tiens, le Christ il est comme ça, pourquoi est-ce que c'est dessiné sur les murs ici, alors que...
Mais moi quand c'est deux fois par an, deux ou quatre par an, les journées, les jardins ouverts, moi je me permets, je ne vous demande pas, mais j'ouvre la chapelle. Je laisse la porte ouverte, la lumière allumée.
Mais bien sûr.
Et... Eh bien, c'est quand même étonnant, quoi.
Oui.
C'est étonnant parce que ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Ils sont en jardin, puis il y a cette cave, comme ça, et puis ils vont, et puis il y en a qui s'assied, et puis on repasse, mais il n'y a personne. Je fais confiance.
Oui, je fais confiance.
Et quand ils repassent et que je suis à la sortie, ben voilà, moi j'aime bien entendre et voir ce que ça a créé, quoi. Et alors la synergie entre le jardin et le qui pour moi est vraiment en résonance, quoi. Il y a vraiment quelque chose d'assez proche pour certains en tout cas. Et ça me touche beaucoup.
Oui, c'est la présence de l'esprit. Que ce soit dans le jardin ou dans la chapelle,
oui.
ce qui est mystérieux, c'est la présence de l'esprit. Enfin moi, c'est comme ça que je le sens. Hein.
Ça, c'est un exemple magnifique.
Parce que tout à l'heure, on parlait de l'érable rouge, là.
Oui.
Mais pour moi, c'est un signe du Saint-Esprit. Qui peut avoir une idée aussi incroyable de peindre cet arbre en rouge, là, tout d'un coup. C'est extraordinaire. Quand on passe à côté de lui, il dégage quelque chose. C'est la présence de l'esprit, évident.
C'est la beauté.
Et là, c'est très facile comme exemple. C'est très facile comme exemple.
Oui.
Je me souviens, il y a des années, mais je ne me souviens plus du sujet, du thème, où on a discuté, parce que justement, il était question d'ouvrir la chapelle à des conférences. Et je me souviens que j'avais posé la question, mais j'aimerais quand même savoir ce qu'on dit. Si c'est quelque chose qui est anti-chrétien, où il y a des groupements très engagés, très actifs, mais qui
Mais peuvent, dans ce cas-là, ils, contre, peuvent, ils peuvent se réunir ailleurs que là.
Voilà. Je trouve, bon, et alors, je sais que c'est discutable, parce qu'on m'a dit, bon, ça manque d'ouverture, il faut être ouvert, il faut être
confiant.
Du jardin, c'est facile, enfin, c'est magnifique, on le sait, hein. Mais bon, parfois, quand c'est, il y a des personnes qui, selon elles, sont tout à fait juste dans ce qu'elles font et qu'ils vont récolter des fonds, par exemple, pour telle ou telle action. D'accord, mais est-ce qu'on adhère à ça et que ça correspond au message du Christ, enfin, c'est pas toujours si simple.
Non, c'est pas si simple. Je suis d'accord, c'est pas si simple. C'est pas si simple.
C'est difficile. Et par exemple, ici, dans cette pièce, il y a la formation en communication avec les plantes, les animaux et l'eau. Ça fait la troisième année. Et bon, et moi, chaque fois, j'essaie de dire, écoutez, c'est la paroisse qui vous accueille. Ouais. Parce qu'il y a des gens là-dedans qui...
Qu'est-ce qu'on entend par accueil? C'est surtout ça. Qu'est-ce que ça veut dire, accueillir?
Mais vous êtes chez eux.
Oui.
Enfin, c'est comme... Oui, je devrais peut-être dire autre chose. Oui. Mais vous êtes dans les murs... Voilà, d'un lieu, etc., et la chapelle est là, si vous voulez y aller, dites-le-moi. Mais bon, il n'y a pas grand monde qui me demande d'y aller. Et c'est comme ça, et c'est comme ça. Mais malheureusement, je ne sais pas bien parler de tout ça, mais je vois bien que quand on communique avec la nature, etc., ben, le divin, ben, on parle énormément de Dieu. On parle énormément de Dieu.
Bien sûr.
Mais de ce Dieu. Et on parle lui-même, mais ils ne veulent pas reconnaître celui-ci.
Oui, mais c'est le même.
Oui, mais ça, moi, à la rigueur,
mais c'est le même.
Mais je crois que c'est le même. Je crois que ce n'est pas à nous à dire, je ne vais pas leur parler. Parce que, est-ce que, oui. Oui, récupérer, est-ce que je vais récupérer quelque chose? Tu leur dis, voilà,
je souffre quand même en silence. Ça souffre en permanence.
Non, mais il faut répondre aux questions. Là, l'essentiel, c'est de répondre aux questions. Alors, susciter la question, justement, c'est là, c'est un peu subtil. Le travail consiste à mener les choses de façon à ce que les gens finissent par vous poser la question. Voilà. À vous dire, mais vous êtes chrétien, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et si on arrive à faire ça, on a gagné quelque chose.
Si on peut aller jusqu'au bout de ce
sujet. Oui, oui.
Les personnes sont parfois choquées, et moi, ça m'a un peu choqué. Bon, ça va, je suis habituée maintenant. Il y a des réunions ici où les personnes voient les icônes.
Oui, à moi, c'est une très bonne
idée. Personne ne le conscient. Donc c'est tu pourrais en parler, mais moi, un groupement qui vient à se réunir ici, qui loue la salle et qui voit les icônes.
Ah.
Et c'est choquant. Ben, voilà, comme vous le dites,
j'ai découvert ça aujourd'hui et je suis un peu perplexe. Ça me laisse perplexe. D'autant plus que... C'est un peu étrange comme comportement.
Mais, oui,
mais il faut accepter que les gens aient des comportements étranges. Ça,
Je crois qu'il faut justement arriver quelquefois, comme tu disais, il faut parfois utiliser la ruse biblique et accepter peut-être de lâcher quelque chose, mais de garder aussi le symbole finalement peut-être de la communauté, quoi, que c'est une paroisse. Je trouve que beaucoup plus symbolique, à la rigueur, que l'archange Saint-Michel uniquement.
Ah, non, mais c'est, de toute façon, cette icône, c'est l'icône des icônes.
Exactement.
C'est un chef-d'œuvre non seulement pictural, mais c'est un chef-d'œuvre de sainteté, de théologie. Fabriqué, construit, bâti par un saint authentique.
Ce qui touche le plus, c'est l'olivier. Ou l'olivier, voilà, c'est également un saint.
C'est le langage commun, quoi. C'est incroyable.
Ah, l'olivier,
oui, par exemple. Et c'est une porte d'entrée, hein. Ça fait une réponse. C'est une réponse. Mais moi, je trouve énormément de voiles chez voile qu'on voile. Et personnellement, moi, je préfère qu'il n'y ait rien. Que des icônes voilées. Mais bon, c'est un débat. Hein.
Non, c'est un débat. Oui.
Oui. moi qui viens quand même souvent dans cette salle assistée.
Je vais vous dire que, qu'elles soient voilées ou pas, elles sont là. Si la sœur Elisabeth était là, elle vous dirait, mais l'icône, une fois consacrée, ça n'est, c'est une personne. Ça n'est pas une peinture. Ça n'est plus une peinture, c'est autre chose. Et vous pouvez toujours la mettre, la voiler, elle est là tout le temps. Et Monseigneur Germain disait, mais vous pouvez les retourner dans l'autre sens, elles sont là quand même. Et il en parlait dans plusieurs de ses cours sur les gens qui sont culpabilisés, etc., qui retournaient leurs icônes au moment de faire l'amour à leur femme. Bon, alors non, vous la retournez, mais elle est là quand même. De toute façon, c'est vrai, bon, ils veulent pas y voir. Voyez-les, c'est pas grave.
Non, mais voilà, j'ai la réponse. En tout cas, j'ai une réponse. C'est que j'assiste ici à quelque chose et je vois ces icônes qu'on cache.
Hein,
comme si elles étaient méchantes.
Ah oui,
etc.
Il faut voir la chose autrement.
Quand tu as tes réunions,
c'est leur regard qui est voilé. C'est leur regard. Ils ont le regard voilé. C'est pas les icônes qui sont voilées. C'est celui qui ne veut pas la voir qui a le regard voilé.
Oui. Oui, Bernard, quand tu as des réunions ici, t'es réconciliant, tu enlèves les voiles.
Moi, j'ai tendance à enlever.
Oui.
Moi, j'ai tendance à enlever.
Mais les gens sont choqués ou...
On dit rien. Et que ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas trop, mais je trouve que... C'est que, bon, je trouve que ça manquerait à un moment de parole, quoi. Et de... Enfin, bon, c'est peut-être à moi à le faire, hein, mais avoir les bonnes paroles pour dire, pour expliquer aussi. Moi, une fois, expliquer ce que c'est. C'est pas un tableau, hein.
Non.
C'est autre chose.
C'est pas un tableau. C'est pas une peinture.
Mais Bernard, tu pourrais aussi leur adresser une prière à toutes ces... leur dire, puisqu'on vous, on vous voile, parlez autrement ou exprimez-vous autrement.
Oui.
Parfois des incidents banals, mais qui suscitent vraiment... Mm-hmm. Il faut compter sur l'inattendu qui vient du Saint-Esprit, ouais, je ne sais pas comment dire.
Moi je croyais que d'avoir fait des voiles, c'était pour que les personnes qui naissent ne soient pas distraites ou accaparées par la vue des
signaux
dans leur réunion qu'ils faisaient pour que ça ne dévie pas du travail qu'ils faisaient ici. Je crois que c'était la raison pour laquelle on a fait des voiles.
Ça peut être ça aussi, mais ce n'est pas la principale. Mais voilà les gens, le traversier, je vous invite vraiment à aller sur leur site, voir ce qu'ils font, c'est magnifique.
C'est quoi le site?
Il y a aussi aucun contact.
Mais oui, il n'y a pas de contact. Pourtant, Madame Manette, la directrice, est venue à la chapelle.
Elle a expliqué.
Oui, et il n'y a eu aucun écho, aucun de nous n'a été vers elle pour lui dire, mais venez, etc. Et elle est repartie toute seule, je l'ai fait partir, quoi. Bon, ben c'est notre faute aussi, quoi. C'est notre faute.
Et c'est quoi leur site, Bernard? C'est quoi leur site?
Le traversier. Le traversier. Voilà des gens qui ont une action sociale absolument magnifique hein, et qui sont complètement fermés à tout ça. Quoi.
Ce qui prouve bien que on peut avoir une action sociale chrétienne ou du moins compatible avec les sentiments chrétiens, sans le savoir et sans...
Mais ils sont proches de Dieu,
sans confesser que Christ est fils de Dieu. La grosse différence, elle est là.
Oui, mais je reviens sur cette parole que le Christ disait, justement, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples.
Oui.
Or, si c'est les disciples du Christ,
ils sont bien des chrétiens. Oui. Ils sont chrétiens sans le savoir.
Non, mais aussi ceux qui pratiquent l'amour.
Parce que,
comme les traversiers qui pratiquent l'amour,
contient l'humanité tout entière.
Oui, et la fameuse qui reconnaît
l'énergie de rassemblement que l'Esprit Saint envoie sur l'Église, par l'intermédiaire des évêques, etc., etc. Cette énergie de rassemblement, elle n'exclut personne.
Non. Mais par exemple, moi je trouve qu'à Noël, par exemple, ou Nouvel An, on pourrait lui écrire une carte de traversée, personnellement. Parce que remarquez que tout est toujours nickel. Hein.
Oui,
ils respectent parfaitement, ils entretiennent. Et pour le chaque jour d'après-midi, ils enlèvent tout, ils nettoient tout pour que pour nous ce soit bien.
Ah, oui.
Eh bien, je pense que nous avons un geste aussi à faire par rapport à eux et leur dire qu'on est content de leur, enfin, voilà, de leur présence, qu'on les remercie pour le soin qu'ils
Mais ça serait bien.
Qu'est-ce qu'ils font exactement quand ils viennent
Alors, quand ils ont des grandes réunions, ils aussi manger à midi, ce qui n'était pas prévu au départ, mais ils discutent entre eux, etc. Mais quand ils sont plus que 6-7, ils n'ont plus la place dans leur bâtiment, donc ils profitent de... Et alors parfois, quand il y a des grands débats de famille, très difficiles, hein, puisque en fait ce qu'ils font, c'est grosso modo, c'est qu'au lieu de mettre, quand les parents sont déchus de leurs droits, au lieu de mettre les enfants du juge, ils ont une vingtaine de psychologues, de tuteurs qui vont dans les familles et rééduquent les familles.
Oui,
donc ils apprennent à ce que tout circule au sein de la famille. Et ça, c'était un projet pilote en Wallonie et maintenant,
Oui, oui.
C'est ça qu'il y reçoit quelquefois justement les familles ici aussi avec un des éducateurs.
Oui, alors il y a un jour le mercredi après-midi où ils reçoivent des familles et ils mettent tous ensemble et on dit on parle, quoi, je vois bien qu'il y a. Voilà.
Mais
parfois des gens
des choses compliquées.
Compliquées, quoi. C'est parfois un peu le carnet.
Oui, alors je comprends pourquoi, dans le fond, c'est pas les icônes qui les gênent. C'est parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait une référence religieuse du tout.
Exactement.
Oui, ça c'est tout à fait autre chose. Ça n'est pas ça n'est pas une démarche anti-orthodoxe ou anti-chrétienne.
C'est une
démarche de neutralité vis-à-vis de, des gens qui composent...
Pour voir si ça vous parle, s'il y a peut-être quelque chose de rencontre à avoir. Mais moi, je les rencontre un peu, il y a des gens magnifiques là-dedans, quoi. Il y a beaucoup de joie, hein. Ce sont des gens qui font la fête, et c'est bien mené, quoi. Il y a une belle équipe.
Quand tu es l'évêque local, tu fais le lien.
Il pourrait beaucoup mieux, et je pense qu'avoir le traversier ici et tout, c'est une grâce, et moi, ça me plaît beaucoup, mais il faut tout le temps...
Mais c'est tout seul à être en lien, c'est pas normal, quoi.
Voilà.
Avec la paroisse, on peut être en lien.
Oui, voilà, je pense qu'il pourrait y avoir des ponts, quoi. Créer des ponts parce que c'est bien, quoi. Ils font aussi, voilà. C'est riche, quoi.
Parce que je trouve que, si je peux me permettre, dans l'église orthodoxe, je suis orthodoxe, j'adhère entièrement à l'orthodoxie, mais elle a un défaut, je trouve. C'est qu'elle n'a pas ce que les catholiques, au sens catholique romain, ce qu'ils pratiquent beaucoup plus que nous, c'est ce qu'ils appellent le sacrement du frère.
Le sacrement?
Le sacrement du frère, pour reprendre leur expression, c'est que c'est notre église orthodoxe. Ne va pas, en tant qu'Église, facilement rencontrer des personnes en dehors du cocon orthodoxe, justement. Et on aurait cette
opportunité. Oui, je pense que c'est une conséquence de la situation géographique et historique de l'Église orthodoxe actuellement, mais que ça n'était pas le cas dans les siècles précédents.
Et puis ça dépend où aussi.
Et ça dépend où.
Parce que dans les pays orthodoxes de longue date, les paroisses sont comme les paroisses catholiques ici, elles sont locales. Nous, souci, c'est qu'on a des gens qui viennent de toute la Wallonie.
Une des raisons de ma réflexion, c'est aussi celle-ci. Nous allons vers un autre concept de l'Église que le concept purement géographique. Je ne vais pas dire local, mais géographique. On peut être une Église locale avec des gens qui sont, par exemple, issus du même milieu social. Ça serait une Église. Ça n'est plus la géographie qui va déterminer les paroisses. Depuis un certain temps, c'est comme ça. Et chez nous, de plus en plus souvent, c'est des recherches communes. Par exemple, les gens qui vont à Béthanie. Par exemple, je prends un exemple. Il y a une sorte de fraternité, de proximité spirituelle ou sentimentale, ou je ne sais pas comment on pourrait dire, psychologique, une tournure d'esprit qui fait une église locale. Enfin, vous voyez un peu, ce concept est en train de s'élargir.
Françoise, moi j'ai un livre qui s'intitule « Le sacrement du frère » et qui parle d'une orthodoxe qui a vécu à Paris et qui a justement pratiqué...
Marie,
je ne sais plus comment son nom... Un nom en russe, enfin.
Sovkova, ou... Les pratiques, elles sont individuelles. Mais en tant que église ou que paroisse, moi ça me dit
en tant que paroisse dimension,
où on est, comme tu dis, fort entre gens, un peu une espèce d'identité, de pas réfermer, l'église, elle craint beaucoup plus large que ça. C'est la pression de largeur.
Non,
mais moi je sens ça aussi. Pour ne pas rester entre soi, oui.
On est obligé de ça, c'est clair. On se rend compte qu'on n'a pas le vocabulaire qu'il faudrait. Parce que comme on a un vocabulaire qui n'est pas juste, qui a été dévoyé, il y a des connotations dévoyées, alors il faudrait trouver un nouveau vocabulaire. C'est pas facile.
Parce que le corps du Christ est très large.
Oui.
C'est
le Christ, c'est le salut universel. Et quand on dit universel, c'est de l'univers tout entier dont il s'agit, aussi bien les plantes, les pierres, les animaux, que les êtres humains.
Mais quand on écoute les deux commandements, je trouve que quand le Christ dit « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces », eh bien, tout ton esprit, si on fait ça, on ne peut pas ne pas avoir le sacrement du frère. Mais c'est lui qui va nous y amener. C'est ça. Moi, le premier commandement, c'est celui-là. Le deuxième, lui est semblable, mais c'est celui-là. Et pour moi, c'est vraiment... Ça me parle, parce que c'est le référent, c'est lui qui est le Dieu de l'univers, comme tu dis, de chacun de nous. Et fatalement, on ne peut pas rester, aimer Dieu de tout son cœur et rester dans sa cible. C'est impossible. Dieu nous ouvre. Ou alors, on est pas...
Mais dès l'instant qu'on y pense, à l'instant même où tu penses ça, tu reçois l'énergie divine, Dieu te répond, tu ne t'en rends pas compte, mais c'est à ce moment-là qu'il ouvre ton âme à la...
Seulement,
on n'est jamais conscient de ces mouvements. Ouais. Il faut être conscient de ces mouvements.
Oui, mais du groupe, c'est plus difficile, justement, parce que Dieu dit, vous aimerez Dieu de tout votre cœur. Non, il dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout. Donc, c'est une démarche personnelle. Et bien sûr que tu as raison, mais il nous ouvre à l'autre, au prochain, et donc au groupe aussi, tu as raison, mais c'est plus difficile, là. Parce que c'est, en groupe, pour moi, c'est plus difficile. Mais tu as raison, c'est évident.
Et j'ajouterais que le groupe est constitué de personnes.
Mais oui.
Et il n'agit que par les personnes qui le constituent. Le groupe en lui-même, qu'est-ce qu'il va faire? Ce n'est la personne qui s'en prend, qui se décide à bouger quelque chose. Le groupe en lui-même, qu'est-ce que c'est?
Je me demande, une idée me vient quand je vous entends parler, s'il ne serait pas bon, utile, que les uns et les autres fassent part de leurs engagements, à gauche, à droite, à faire l'asile, autant, ou la soupe populaire, ou les sans-abri, ou l'écologie, etc. Et que ces engagements soient pris en compte, on le sait, on n'y participe pas directement, activement, mais dans notre prière, je dirais, tout ça peut être porté par les prières personnelles de chacun, l'engagement de chacun. Et ça serait entre nous...
L'engagement de chacun et l'engagement de tous, symboliquement, spirituellement. Et ça, c'est le mystère de l'Église. C'est parfaitement la communion des saints. Hein. C'est parfaitement vrai ce que tu dis. Et dans le fond, c'est un peu ce que les litanies de la liturgie voudraient faire, d'une certaine manière. Il y a même où les diptyques, on présente son action à titre personnel, on la présente comme celle de l'Église tout entière. Voilà.
C'est ça. Mais que le lien...
Une sorte de délégation.
Que ce soit plus explicité.
Oui, ça pourrait être plus explicite, tu as raison.
Pourquoi pas. Je voudrais beaucoup appuyer ta proposition, parce que c'est déjà depuis très longtemps que je trouve dans cette Église. C'est un cocon agréable, nourrissant, enfin bon. Mais je voudrais qu'on y ait on parle de choses plus laïques, mais de laïques engagées. Et donc, je suis sûre que ça pourrait prendre un quart d'heure, juste avant les agapes, pour essayer que chacun exprime, tout le monde n'a pas vraiment une activité spéciale, mais que ça serait fort intéressant, parce qu'alors, on pourrait l'apporter dans la prière au moins, et éventuellement dans l'action. Je trouve que c'est une très bonne problématique.
Mais moi, je trouve que ça pourrait faire l'objet d'une réunion par
Mais ça pourrait être un enseignement, ça pourrait être l'objet d'une fête annuelle. Ça pourrait être l'objet d'une célébration annuelle. Ça, c'est une chose qu'il faut creuser. Je suis en train de me dire à quel moment, quel serait le jour de l'année le plus favorable et le plus symbolique pour ça.
La Pentecôte.
Il y a tellement de choses à la Pentecôte.
On a toujours une
réunion paroissiale chaque fois à la Pentecôte.
Ah oui, vous avez raison. C'est le concile, les conciles des Gaules, nos ancêtres les Gaulois, qui étaient des gens judicieux, le concile des Gaules avait lieu à la Pentecôte. Et 6 mois plus tard, au 1er novembre. C'est pour ça que la Toussaint est devenue une fête si importante, parce que c'était le concile. Hein. Bon. Mais les évêques des Gaules, tous les évêques se réunissaient pour la Pentecôte. Bien sûr, la Pentecôte, c'est parfait, mais par exemple, j'ai institué le mardi dérogation, la fête de...
La sauvegarde de la création. La sauvegarde de la
création. La sauvegarde de la création. Eh bien, on pourrait faire une fête de la fraternité, il faudrait trouver quelque chose. Pourquoi pas
Le sacrement du frère.
Parce que le jour de la Pentecôte, évidemment, c'est un peu, ça fait un peu double emploi et ça peut être un peu trop le sandwich.
Ou la Toussaint. La Toussaint.
La Toussaint, c'est pas mal aussi. La Toussaint, c'est pas mal.
Il y a beaucoup d'absents. Hein. C'est un long congé.
Mais en tout cas, j'y réfléchis parce que c'est pas mal comme idée. C'est intéressant comme idée.
Oui, c'est vivant.
Oui. Et puis surtout, ça peut donner, à mon avis, ça peut donner des vocations pour les gens qui ne sont pas engagés, qui pourraient bien pouvoir s'engager à faire quelque chose. Ça pourrait être, tu vois.
Oui. Et on pourrait aussi utiliser le site que chacun, ceux qui...
Oui, mais parler, avoir le témoin en face de soi, c'est toujours plus parlant.
Oui, mais l'un n'exclut pas l'autre.
Oui, non.
Simplement diffuser l'information, que ça circule déjà entre nous.
Oh. Bien.
Je pourrais aborder un autre sujet que tu as évoqué tout à l'heure, mais pas longtemps.
Oui.
C'est 4000
églises. Ah oui. Tu as parlé des trois églises et de la question qui vous avait, qui avait surgi, de savoir est-ce qu'on va vers une seule église à partir des trois églises. Et puis, la nuance que tu introduisais, ben oui, mais la diversité est très importante.
Oui.
Et je trouve que cette question est vraiment très très intéressante. Et moi, personnellement, hein, c'est un avis, je trouve que cette diversité est très fondamentale.
Ah, pour moi, c'est prioritaire. Pour moi, c'est la notion prioritaire. Parce que, finalement, les partisans de l'unité complète sont minoritaires chez nous. Et à peu près tout, dans le clergé en tout cas, à peu près tout le monde est d'accord pour dire que nous devons garder notre diversité et que cette diversité, elle est dynamique. Mais nous avons chacun une spécialité. Et ça marche très bien. J'ai été au mois de septembre à la consécration de la nouvelle, la dédicace de l'église de Saint-Michel-du-Var, comme vous le savez. Mais cette dédicace qui n'a duré que 2 jours, nous a donné un an de travail. Un an pendant lequel, à peu près toutes les semaines, ils m'ont téléphoné pour me demander des détails liturgiques. Nous avons eu une vraie collaboration, c'est-à-dire que la cérémonie, elle ne s'est pas faite sans nous. On était associés d'une certaine manière parce que c'est moi qui ai redonné les textes, d'abord. Les textes. Ensuite, ils avaient des problèmes d'architecture, enfin, tout ça. À chaque fois, ils se sont adressés à nous, y compris pour les vêtements liturgiques, qui sont en train de refaire, parce qu'ils étaient très, très byzantins jusqu'à présent. Et là, on a vraiment une... Et on sent que chacune de nos églises a une spécificité, et que c'est quelque chose de dynamique, c'est-à-dire que nous en profitons tous. Chacun, ça n'est pas quelque chose qu'on garde pour soi. On n'est pas seulement des spécialistes de liturgie, comme d'autres seraient des spécialistes de la mystique ou autre, n'est-ce pas? Non, non. Et c'est très vivant. Moi, je trouve que... Et je pense que là, on est en conformité avec la tradition des apôtres. Là, on...
Je pense que ce serait un très beau sujet à aborder lors de la prochaine assemblée des trois églises.
J'espère.
Que de mettre en valeur la richesse de chacun et la diversité.
Mais ça, c'est bien apparu, ça fait donc 2 ans qu'on fait ces réunions, et c'est apparu vraiment dès la première réunion, et ça s'est confirmé cette année, et je pense que l'année prochaine, ça sera encore plus confirmé. On tient quelque chose, là. Quelque chose.
Mais l'expliciter, que tout le monde puisse avoir accès à cette information.
Oui.
Et à cette diversité, justement.
Oui, il est probable qu'un jour ou l'autre, le collège épiscopal écrira un texte, comme on a écrit déjà des choses. Mais c'est une expérience tout à fait étonnante que nous faisons. Hein. Une des dernières paroles de l'évêque Vigile, du métropolite Vigile, c'était... Eh bien, avec son accent du midi, c'est miraculeux notre affaire. J'ai l'air de dire, ça tient, c'est un miracle, mais en même temps, il y a la présence du Saint-Esprit. On sent qu'on n'est pas à côté du chemin, là. On est dans la bonne direction, je pense. Voilà.
Merci.
Est-ce que je t'ai rassuré sur certains points?
Je ne suis pas si sûr d'être...
Tu ne dis pas assez.
Être rassurant, non. Simplement pour...
Oui. Oui, c'est bien. Oui, mais je crois qu'on est tout à fait dans la même optique. Hein. Oui. Non, il y avait... Du temps de Saint-Paul, il y avait des églises, comme je vous le disais, la comparaison avec les paroisses, et ces églises, elles n'étaient pas du tout... Ils avaient des usages complètement différents les uns des autres. Ils ne cherchaient pas absolument. Leur unité était dans la confession de la foi. La confession de la foi, c'était l'essentiel. Et le reste, chacun avait son truc, quoi. Ses inquiétudes, ses besoins, même la langue. Et dès l'instant qu'on a voulu imposer une langue de force, on a eu des ruptures. Parce que l'histoire du concile de Calcédoine, c'est bien une question d'identité. Ils n'ont pas respecté. Les Byzantins ont voulu imposer le byzantinisme partout. C'est évident, ça. Ça se sent tout de suite. Ah.
Je voudrais vous remercier.
C'est tard, non ? On a beaucoup parlé.
Donc c'est bien, 4h10, c'est bien. On avait prévu 2h, c'est très bien.
Quand fait-on les vêtres alors ?
À 4h30, on a...
Comme tu disais, les on est un peu recadré.
C'est pour ça ?
Si on est avec un cadre, on le travaille.
Oui, je vais.
Vous dites les lettres ?
Parce que c'est certaines choses.
Voir quelque chose.